RFI, il est 6h30 à Paris, à Kinshasa, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Les inquiétudes des habitants de Walikale Centre à la une de ce journal.
Oui, face à la présence de combattants du M23 dans cette localité de l'est de la RDC, les ravitaillements manquent, tout comme l'eau potable. Les routes sont dévastées, les maisons et boutiques pillées. Témoignages à suivre. Et pour faire face à ces menaces, le président Félix Tshisekedi entend former un gouvernement d'union nationale. Une grande partie de l'opposition boycotte les consultations et penche plutôt vers l'initiative de la CENCO et de l'ECC. Un opposant centrafricain dénonce une atteinte gravissime à la démocratie. Des gendarmes ont interrompu une réunion du parti URCA. Vous l'entendrez dans ce journal. Nous sommes au Cameroun, ensuite, où le RDPC au pouvoir fête ses 40 ans aujourd'hui. Retour sur l'histoire du parti qui compte bien rester à la tête du pays avec la présidentielle prévue en fin d'année. Enfin, la colère des avocats tchadiens face à ce qu'ils considèrent comme des viols des règles de procédure de la part de la Cour suprême qu'ils boycottent pour un mois. Une ambiance pesante depuis quelques jours à Walikale Centre dans l'est de la République démocratique du Congo. Walikale Centre, localité de la province du Nord Kivu dont le M23 a pris le contrôle la semaine dernière. Samedi, ces mêmes rebelles soutenus par le Rwanda ont finalement annoncé leur retrait. Pourtant, au moins jusqu'à hier, certains de ces combattants étaient encore en ville, ce qui pousse les habitants restés sur place à se cloîtrer chez eux. Écoutez le témoignage de l'un d'entre eux.
Présentement, nous vivons des conditions très compliquées, vu l'afflux de gens, l'afflux de réfugiés qui viennent de partout et les autres qui sont réfugiés dans des forêts. Nous sommes séparés de nos familles. Lorsqu'il y a eu des bandades, il y a des familles qui ont perdu les enfants, il y a des enfants qui se sont vus seuls, sans parents. C'est ça la situation que nous traversons. Mais sur les places sanitaires, nous avons du mal à accéder à l'eau potable. C'est trop alarmant. Les routes sont dévastés, les maisons sont pillées, les boutiques ont été pillées partout. Les populations vivent des moments très très difficiles ici à Walikale. Il y a la terreur qui s'installe chaque jour. Et nous avons appris également que les rebelles ont signé un communiqué disant qu'ils devaient se retirer, mais nous ne voyons pas vraiment ce signal, nous ne voyons pas vraiment de signaux de retrait. Vraiment, nous vivons des moments très très compliqués dans la cité de Walikale.
Voilà, cet habitant de Walikale Centre, joint par Guillaume Thibault. J'ajoute que Michel Motomouima, un député membre de la majorité, a saisi ce week-end de la chambre basse du Parlement pour dépêcher sur place une mission humanitaire d'urgence. Et c'est justement pour faire face aux différents défis sécuritaires dans le pays que le président Félix Tshisekedi lance ce lundi des consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. C'est Désiré Cachemire-Kolongele Eberande, le conseiller spécial en matière de sécurité pour la présidence, qui est en charge des opérations. Pendant deux semaines, des membres de la majorité, des leaders d'opinion, mais aussi de la société civile, de la jeunesse, des anciens chefs de corps et de l'opposition seront consultés. Une initiative que l'opposition, justement, boycotte largement. Certains voient d'un meilleur œil celle lancée il y a quelques semaines par les églises catholiques et protestantes de RDC. Plus de précisions à Kinshasa avec Pascal Moulégois.
Les partis de l'opposant Moïse Katumbi est farouchement opposé à ces consultations. Hervé Diakiesse est son porte-parole.
Vous n'avez pas encore créé l'Union nationale et vous commencez déjà par mettre en place un gouvernement dit d'Union nationale. C'est une perte de temps. Nous nous inscrivons dans les cadres de consultations menées par les évêques.
Rodrigue Ramazani, secrétaire général du parti En Vol de Délice et Sanga, va dans le même sens.
Le pouvoir Tshisekedi doit ravaler son orgueil et placer l'intérêt du peuple au-dessus de calculs politiciens en adhérant à cette démarche portée par le père de l'Église. Seule voie crédible de restaurer la paix et la cohésion nationale.
Prince Epengue, le porte-parole de la coalition Lamuka de Martin Fayulu, évoque des consultations inopportunes et déplacées.
Ce n'est ni la voie, ni la solution, ni les cadres. Félix Tshisekedi a tapé à côté. La situation est dramatique. Le Congo est au bord du précipice. Est-ce que les consultations en débauchant certains opposants aux esprits faibles va résoudre cette crise?
Et pour Franklin Tshamala, secrétaire général du parti LGD de Matata Ponyo,
nous sommes par contre favorables aux initiatives qui vont dans le sens de favoriser la tenue du dialogue pour un consensus national, envie d'aborder les causes profondes qui nous plongent dans les conflits à l'est de notre pays notamment, telles que portées par les pères spirituels de la CENCO et de l'ECC.
Pour ces premiers jours, les consultations s'ouvrent avec la première ministre et la majorité au pouvoir. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
Au Soudan, après des avancées significatives de l'armée ces derniers jours, notamment à Khartoum, avec la reprise du palais présidentiel, de la Banque nationale ou encore du centre des services de renseignement, les paramilitaires ont répliqué à Omdurman, ville située de l'autre côté du fleuve, face à la capitale. Des bombardements ce dimanche ont fait, selon une source médicale, 3 morts, dont 2 enfants. 8 autres personnes ont été blessées, indique cette même source. Voilà bientôt 2 ans que la guerre fait rage entre les hommes des généraux Al-Burhan et Metti. Une année 2025 présidentielle en Centrafrique et à quelques mois de l'échéance prévue en décembre, un opposant, Anicé Georges Dologuele, a été empêché de prononcer son discours hier lors d'une réunion politique à Begwa, au nord de Bangui. Le leader de l'URCA, l'Union pour le Renouveau Centrafricain, avait prévu d'y dévoiler les grands axes de sa politique. Si la réunion a démarré comme prévu, elle a été interrompue par la gendarmerie alors que le leader allait prendre la parole. Anicé Georges Dologuele a ensuite tenu une conférence de presse chez lui pour dénoncer une atteinte à la démocratie.
Nous avons prévu une réunion du parti à Begwa. Ça s'est passé dans une concession parce que nous savons que les réunions dans les stades, dans des terrains de football, c'est des lieux publics. Et donc nous risquons d'être accusés de troubles à l'ordre public. À ce moment-là, il faut demander l'autorisation des autorités, de l'administration. Donc tout était fait de manière très légale. Il n'y avait aucun désordre. Et il restait juste ma prise de parole quand j'ai vu des mouvements de gendarmes. Et puis, je vois des officiers venir me dire qu'ils ont reçu des instructions pour que j'interrompe la réunion. Je leur dis, la réunion est presque finie. Laissez-moi 5-10 minutes, je parle à la population et puis on se disperse. Ah, non, non, non. Ils ont reçu des instructions pour venir arrêter. Je suis un citoyen. C'est une atteinte à la démocratie gravissime. Un parti qui ne fait pas des réunions tous les jours, qui veut en organiser une, on l'arrête. C'est contre ça que nous luttons.
Anicé Georges Dologuele, leader de l'URCA au micro de Rolf-Steph Domialeux. J'ajoute que selon une source policière, Anicé Georges Dologuele n'a pas informé les autorités politico-administratives de la localité avant l'organisation de cette manifestation. Année présidentielle également au Cameroun en 2025, année qui correspond également aux 40 ans du parti au pouvoir. C'est ce lundi 24 mars que le RDPC souffle ses bougies. Pour l'heure, on ne sait pas encore si le président Paul Biya, lui au pouvoir depuis 43 ans, sera candidat à sa succession, même s'il est annoncé comme le candidat du parti. Toujours est-il que sa machine politique se tient déjà prête dans un environnement que le RDPC domine très largement depuis sa création. RFI Yaoundé, Polycarpe Samba.
C'est à Bamenda, dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, que naît le RDPC en 1985. Paul Biya est au pouvoir depuis 3 ans et a déjà eu affaire à 2 importantes crises politiques. La première avec son mentor, l'ancien président Amadou Ahidjo, qui en démissionnant de la présidence avait gardé la main à la tête de l'UNC, le parti unique d'alors. Quelques mois plus tard, en avril 1984, le pouvoir est ébranlé par une tentative de coup d'État qui finit par convaincre Paul Biya de créer sur les cendres de l'UNC une formation politique qui lui est toute dédiée. Le nouveau parti présidentiel, le RDPC, est né. En 1991, avec le retour au multipartisme, le RDPC qui était installé dans le confort du parti unique doit soudainement faire face à sa première compétition électorale. Le début de la décennie 90 est référencé sur le terrain politique par les années dites de braise. L'opposition pousse pour l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Le RDPC plie, mais ne rompt pas. La conférence n'aura pas lieu. En octobre 1992, le président Paul Biya, dans un environnement politique tendu, est déclaré vainqueur de la première élection présidentielle pluraliste face à Ni John Frundi. Depuis cette année-là, le RDPC a travaillé à reconquérir la quasi-totalité des institutions au point de devenir un quasi-parti-État, avec ce que cela peut comporter d'inertie et d'immobilisme, selon certaines critiques des observateurs de la scène politique nationale. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Le Tchad dans ce journal et ce boycott de la Cour suprême décidé par le Conseil de l'Ordre des Avocats. Il va durer 1 mois et en cause une multiplication de verdicts rendus sans jugement et donc en dehors de toute procédure, affirment les juristes. Je vous propose d'écouter Maître Gerandi Laguerre-Dionro. C'est le président du Conseil de l'Ordre et avec cette grève, l'objectif est selon lui d'alerter et de pousser les plus hautes autorités de l'État à contrôler les activités de cette Cour suprême.
La colère des avocats vient de ce que la Cour suprême, non seulement dans cette affaire précise, mais dans bien d'autres affaires, viole allègrement les règles de procédure. Le collectif a saisi le Conseil de l'Ordre des avocats, a saisi également le garde des Sceaux. Nous avons estimé que c'est une situation très grave et il fallait dénoncer en tant qu'institution. Et donc, il faut que les autorités travaillent à redorer l'image de la justice, malheureusement, avec des décisions comme ça rendues par la Cour suprême, des décisions sorties des poches ou des manches des robes. eh bien, nous estimons que c'est une entorse terrible à l'état de droit. Le barreau estime qu'il faut observer ce gel d'activité pendant un mois en espérant que les plus hautes autorités réagiront et prennent des décisions qui s'imposent.
Maître Djérandi Laguerre Dionro, président du Conseil de l'Ordre des Avocats au Tchad. Il était avec Guillaume Thibault. L'actualité du continent, en bref, au Kenya, une attaque des Chebab dans un camp de réservistes de la police situé non loin de la frontière. Les combattants islamistes ont mené une offensive tôt dans la matinée de dimanche avec des armes diverses, fait savoir le porte-parole de la police. Bilan, 6 morts parmi les policiers, 4 autres blessés ont été transportés à l'hôpital, 2 membres des Chebab ont également été tués dans l'opération et un autre grièvement blessé. Et puis on vous en parle depuis ce matin sur RFI, le développement de la recherche génomique sur le continent. 2% du génome humain répertorié provient de personnes africaines, ce qui représente un large fossé dans les connaissances scientifiques. Illustration de ces avancées ce lundi en Afrique du Sud, c'est l'un des moteurs du continent et c'est précisément à l'université de Wits de Johannesburg. Cette université qui est parvenue à se doter d'équipements de séquençage à la pointe et pour mieux comprendre cette technique qui permet de lire l'ADN, comprendre les mutations des gènes et prévenir certaines maladies en fonction d'un groupe ou d'une population. Valentin Hugues s'est rendu à l'Institut de Biosciences Sidney Brenner de cette université. Reportage.
Tout commence avec quelques gouttes de sang conservées à moins 80 degrés dans un grand congélateur.
Je travaille sur la génétique de la population noire sud-africaine pour voir ce qui peut expliquer une réaction différente au traitement contre l'hypertension par rapport aux populations européennes ou asiatiques.
Pour répondre à ce genre de questions, il faut séquencer les gènes pour les lire dans le détail et les comparer à un gène de référence. Mekouda Nyamouba, doctorant à l'université de Wits, doit d'abord extraire l'ADN.
Ici, nous avons une machine automatisée très sophistiquée. On écrase les cellules et des billes magnétiques attirent l'ADN. C'est une technologie très moderne. On peut traiter plus d'échantillons. On gagne beaucoup de temps.
Une fois l'ADN extrait, il faut préparer le séquençage, amplification de l'ADN, récolte des données, configuration des machines, un processus d'environ une semaine.
Voilà mon séquençage. Chaque personne a un identifiant unique. Là, c'est une personne, ici une autre. Avec le séquençage, nous pouvons trouver la cause profonde du problème que nous examinons. En d'autres termes, une fois qu'on a la cause, on peut dire si une personne a cette mutation, elle sera plus susceptible d'être malade et donc faire de la prévention.
C'est aussi une pratique coûteuse. Plusieurs millions d'euros sont nécessaires pour faire fonctionner un laboratoire comme celui de Wits. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
7h43 à Johannesburg. À vous, Marion Cazanov.
Merci Nemo en Peace.